Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est le sujet explosif par excellence, la chasse. Art de vivre ou sport pour les uns, activité dangereuse pour les autres, accidentogène. Elle oppose souvent les ruraux aux urbains et témoigne des nouveaux usages de la nature un peu partout en Europe. Les défenseurs de la chasse en France rappellent que c'est un acquis révolutionnaire. Ailleurs sur le continent, les chasseurs expliquent qu'ils permettent une meilleure régulation des animaux, qu'ils permettent de protéger les élevages des grands prédateurs ou d'éviter la prolifération des sangliers comme à Rome en Italie où ils viennent fouiller les poubelles. Les opposants à la chasse soulignent que les chasseurs tuent de façon indiscriminée, que de simples promeneurs sont mis en danger, que certaines chasses traditionnelles sont cruelles, chasse à courre ou chasse à la glu par exemple. Et puis en Suède, eh bien c'est en ce moment la période de la chasse aux élans, un animal emblématique du pays, une chasse particulière, un peu sacralisée et qui attire de plus en plus de femmes. Un reportage de Carlotta Morteo.
I was invited to this moose hunt in Värmland, which is also very wolf-populated area.
Le souvenir est encore frais dans sa mémoire. Le week-end dernier, Lara Tickel, 33 ans, a participé à sa première chasse à l'élan avec un groupe de 10 femmes au fin fond d'une forêt à la frontière norvégienne où rôdaient aussi des meutes de loups.
C'était vraiment intense. On était dans la forêt pendant 4 jours, on ne se connaissait pas. Et les chasses à l'élan sont très organisées, avec toute une culture sur la manière de faire. Pour chasser l'élan, on utilise des chiens qui sont lâchés. Ils cherchent une odeur à plusieurs kilomètres à la ronde. En aboyant, soit ils font peur à l'élan, qui est un peu choqué et donc arrête de bouger. Le chasseur qui suit les chiens peut alors lui tirer dessus s'il rentre dans les quotas. Sinon, les chiens courent après l'élan. Et vu que tu peux les suivre par GPS sur une appli, tu peux essayer d'anticiper si l'élan va passer à côté de ta position, là où tu es assis. C'est toute une stratégie, en fait, pour essayer de comprendre où va aller l'élan.
À l'affût, en silence, Lara Tickel voit passer devant elle, émerveillée, des femelles trop petites ou des élans trop jeunes pour être abattus. Et puis, le dernier jour,
une des filles nous a dit à la radio : « Je vais m'approcher de cet élan, voir si je peux l'avoir. » Elle l'a eu. Ça a couronné l'expérience. Quand on l'a rejoint, je me suis sentie triste. Je suis une jeune chasseuse, mais je pense que beaucoup de gens ressentent de la tristesse en voyant un si bel animal mort. En même temps, c'était beau de voir toute l'équipe réunie autour de lui, comme l'humanité a dû le faire pendant des centaines d'années, des millions d'années même. On a dû s'y mettre à plusieurs pour le tirer. C'est tellement lourd et le sol est mou. On s'enfonce dedans jusqu'aux genoux. C'est des forêts marécageuses. C'était une expérience très physique.
Lara Tickel est une fille de la ville. Elle s'est intéressée à la chasse pour le plaisir d'être dans la nature, mais surtout pour se confronter à sa réalité de carnivore, tuer pour se nourrir.
La viande, c'est le principal facteur de motivation, surtout pour les femmes. Les recherches montrent que c'est plus important pour nous que pour les hommes. Gaspiller le gibier est considéré comme très immoral. Surtout la viande d'élan, c'est très tabou de la gâcher. L'élan, c'est un symbole national, c'est l'animal totem. Par exemple, on sait que les changements climatiques ont un impact sur la taille des élans. Ils sont de plus en plus petits. Ça suscite de fortes réactions chez les chasseurs et les gens en général parce que ça touche à notre fierté, à notre héritage. C'est notre responsabilité de préserver la population d'élans. C'est un symbole de nous-mêmes, de la manière dont nous gérons notre environnement naturel, notre pays en somme.
Alors que notre promenade en forêt touche à sa fin, Lara Tickel n'en finit pas de se poser des questions éthiques sur la pratique de la chasse. Cette doctorante a fait de sa passion son sujet de thèse, supervisée par la chercheuse Erika von Essen de l'Université des sciences agricoles d'Uppsala.
La culture de la chasse en Suède est très populaire. Ce n'est pas du tout lié à l'aristocratie, comme au Royaume-Uni, par exemple. C'est probablement pour cela que c'est bien accepté ici. Ce n'est pas élitiste. Pour la chasse à l'élan, les gens retournent en général dans la région où ils ont grandi et ils chassent avec leurs pères, leurs cousins. C'est une forme de sociabilité de la campagne. Ça fait partie intégrante de la culture suédoise. Ce n'est pas une petite sous-culture. Et pour légitimer la chasse, il faut que ce soit pour la viande ou pour la gestion de la vie sauvage. C'est mal vu de le faire juste pour se divertir.
Particulièrement régulée, précisément comptabilisée, la population d'élan tourne aux alentours de 400 000 têtes. S'il a failli disparaître au milieu du siècle dernier, le plus grand des cervidés est considéré aujourd'hui comme une menace par l'industrie forestière, puisqu'il dévore les jeunes pousses d'arbres.
Les chasseurs sont assez remontés contre le fait que les quotas de chasse pour les élans sont relativement élevés. Si on leur propose d'abattre 20 élans sur une parcelle cette année, ils vont dire « Non, on n'est pas d'accord, la population ne peut pas le tolérer ».
Les exploitants du bois se disputent donc tous les ans avec les chasseurs, qui tue souvent moins d'élans que les quotas autorisés, fiers d'être les garants de ce symbole de la Suède.
Direction l'Anatolie, dans l'est de la Turquie, une terre de chasse ancestrale. Elle est devenue, depuis quelques décennies, une destination de choix pour des chasseurs étrangers en quête d'espèces à la taille et aux caractéristiques exceptionnelles. Cette chasse touristique est strictement encadrée. C'est une activité lucrative pour l'État à Istanbul, à Nandlauer.
Nous sommes en automne, bientôt en hiver, la saison de la chasse est ouverte en Turquie. Considérée nos jours comme un sport dans le pays, des locaux la pratiquent aux quatre coins de l'Anatolie, mais certains font aussi des milliers de kilomètres pour ajouter à leurs trophées des espèces rares et imposantes. Ce tourisme de chasse fait la une des médias lorsque le touriste chasseur est une célébrité. En 2016, le fils de Donald Trump, Eric, avait chassé deux cerfs en trois jours dans l'arrière-pays d'Antalya. Deux ans plus tard, dans la même région, le joueur de football Zlatan Ibrahimovic avait abattu un bouquetin aux cornes longues de plus d'1,20 m. La chasse touristique et la chasse tout court est une activité strictement encadrée. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts détermine chaque année quelles espèces peuvent être chassées, à quelle période et dans quelle région. Il définit pour chaque espèce et chaque zone de chasse un quota d'animaux sous forme d'appel d'offres auxquels peuvent participer ceux qui disposent d'un permis de chasse, mais aussi des agences. Et c'est par ces agences que passent les étrangers qui viennent en Turquie pour chasser. Ces agences de voyage organisent pour leurs clients des séjours de plusieurs jours qui leur coûteront au bas mot quelques milliers d'euros. Outre tous les frais logistiques, il faut payer un permis de chasse et une taxe de tir pour chaque animal abattu qui dépend de sa taille. Or, les chasseurs étrangers ne s'intéressent pas aux petits gibiers, ils ne viennent pas traquer la perdrix. Ils convoitent par exemple le sanglier Attila, la plus grosse espèce de sanglier au monde, dont les défenses atteignent jusqu'à 25 cm. Le chamois d'Anatolie ou l'ibex bézoar, un bouquetin aux cornes hors normes qui évolue dans les monts Taurus au sud de la Turquie. Le tourisme de chasse est donc une activité onéreuse pour ceux qui s'y adonnent, mais lucrative pour l'État turc, en quête de devises étrangères et qui est donc encouragée autant qu'elle est réglementée. La chasse illégale est sévèrement punie, les contrôles sont fréquents, même s'ils n'empêchent pas le braconnage et les accidents réguliers qui concernent surtout des locaux. Et si les photos d'étrangers, célébrités ou pas, posant dans la nature aux côtés de leurs trophées peuvent provoquer des polémiques, la chasse n'est pas pour autant une activité décriée ou suscitant de grands débats dans la société turque.
Les animaux ne sont pas rancuniers, chassés, dévorés, empaillés. Ils sauvent aussi la vie des humains avec parfois l'aide de la science. Prenez le cabillaud et plus particulièrement sa peau. En Islande, elle est utilisée pour soigner les grands brûlés et ça, Clémence Pénard, c'est une bonne nouvelle.
Et oui, une innovation médicale que l'on doit à la société Kerecis. L'idée, c'est de récupérer donc des peaux de cabillaud. Les eaux pures et froides islandaises les ont en fait protégées des virus et des bactéries. La peau est ensuite séchée, puis dans des pièces aseptisées. Évidemment, celle-ci est débarrassée de ses écailles. On s'assure qu'elle est bien stérile et sans odeur. Une façon naturelle, finalement, prélevée des océans pour soigner le corps humain. Comme nous l'explique le magazine « Nous, les Européens », ensuite, il suffira de mouiller en salle d'opération cette peau de poisson pour pouvoir remplacer la peau humaine lors d'une greffe. Et non, vous ne ressemblerez pas à un mutant, puisqu'au fur et à mesure, la peau de poisson s'estompe et même disparaîtrait totalement. En France, les personnes victimes de brûlures du deuxième degré sont soignées grâce à des pansements biologiques en peau de porc ou alors provenant de membranes amniotiques humaines. Or, ces techniques sont 1) relativement coûteuses, 2) certains pays manquent également de dons de peau humaine ou de peau de porc, et puis la peau de cabillaud a aussi un immense avantage sur la méthode habituelle des bandages. Avec le poisson, il n'y a pas besoin de retirer les couches chaque jour et de nettoyer les plaies. Une torture redoutée par les patients. Ces produits islandais ont même été envoyés en Ukraine. Des médecins là-bas ont été formés, étant donné le nombre de blessés à cause de la guerre. Un véritable progrès scientifique qui sauve ainsi des vies. Bon, après, pas sûr que ça soit une si bonne nouvelle. En revanche, vous l'aurez compris, pour les poissons.
Merci Clémence Pénard. Chaque semaine, en partenariat avec Enter, vous nous racontez des initiatives vertueuses en Europe avec des vidéos à retrouver sur leurs réseaux sociaux. Moss Road to Baker Street, down to the cross where another bike smoked. Si vous êtes dans la capitale britannique, profitez-en. Il vous reste 2 jours pour visiter le musée de la ville de Londres. Le 4 décembre prochain, c'est dimanche, le musée de Londres fermera ses portes pour 4 ans. Il rouvrira pour raconter l'histoire de la capitale autrement et à quelques centaines de mètres de son site initial, mais toujours au sein du quartier historique de Londres, aujourd'hui le quartier financier, la City. Un reportage signé Marie Billon.
L'actuel musée de Londres est un lieu à l'architecture emblématique. Il a été construit dans les années 60 et 70, un exemple du courant brutaliste. Adossé au Barbican Center, un concept mêlant habitation et centre culturel dans un style en béton imposant, sans fanfreluche qui divise les opinions. Le Museum of London est accessible en empruntant une passerelle suspendue au-dessus du trafic. Andrew Marcus est le chargé du numérique.
Dans les années 80, la mise en hauteur était la marque de l'architecture d'avant-garde. Mais en fait, ça rend le bâtiment difficile d'accès. L'immeuble faisait partie de l'effort de régénération du quartier après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un bâtiment qui n'est pas beau, qui n'est pas accueillant et qui n'est pas pratique pour un musée.
Le Museum of London va donc quitter l'ombre de la cathédrale Saint-Paul et la proximité des vestiges du mur qui entourait Londinium, la ville romaine, il y a 2000 ans.
Même si nous sommes tristes de dire au revoir au mur, ce monument historique qu'on peut voir depuis l'intérieur du musée actuel, on ne déménage pas loin. Et les bâtiments dans lesquels nous allons emménager racontent eux aussi une histoire passionnante, celle du commerce et des échanges mercantiles depuis plus de 1000 ans. Smithfield has been important for 1000 years.
À l'entrée du musée actuel, il y a une maquette du marché de Smithfield où le musée emménagera et ouvrira ses portes en 2026. Une manière de faire patienter les visiteurs et de leur expliquer pourquoi il était temps, selon Marcus, de redonner un coup de jeune au musée de Londres.
Actuellement, nous racontons l'histoire de Londres de manière chronologique. Nous commençons avant même que la ville existe, jusqu'à aujourd'hui. Dans le nouveau musée de West Smithfield, nous allons raconter cette histoire à travers des thèmes. Au sous-sol du bâtiment, qui était le marché général, il y aura un espace nommé « Temps passé ». On y découvrira les ères romaines, victoriennes, mais à travers des thèmes, quotidiens, maisons, magasins, foires religieuses, des idées qui parlent aux gens. À l'étage au-dessus, il y aura Londres de nos jours. Par exemple, aujourd'hui, on a des vitrines sur le footballeur Harry Kane ou la musique Grind. Avant, on avait parlé du punk. On fera plus de choses comme ça dans le nouveau musée, ainsi que de nombreux événements.
Incredible events. Andrew Marcus assure qu'il y aura au moins autant d'objets exposés, des squelettes romains aux écharpes des suffragettes, et peut-être davantage, puisque la surface du musée sera plus que doublée, mais une grande partie sera laissée aux expériences et au numérique. Un musée moderne donc, dans un quartier rempli de cafés, de pubs, de bars et de restaurants.
Je m'appelle Francis Grew, je suis le commissaire pour l'archéologie pour le nouveau musée. Nous sommes arrivés à Smithfield et nous traversons l'allée principale du marché. Il y a beaucoup de gens qui s'activent, c'est encore un marché très vivant.
Et c'est à côté, dans le bâtiment vieux de 150 ans, dont la façade est faite de briques et de colonnes de style renaissance italien, italienne que le nouveau musée va s'installer. Les travaux sont en cours, tout l'intérieur est en train d'être refait pour accueillir ce lieu de culture. Alors flambant neuf, oui, mais il va s'insérer, comme avait commencé à le dire Marcus, au cœur de la longue histoire de la capitale.
Nous nous tenons sur ce qui, il y a 2000 ans, était un cimetière romain. Il y a 500 ans, pendant la période médiévale, nous aurions été au milieu des enclos pour les animaux qu'on emmenait au marché. Nous aurions aussi peut-être pu voir des prisonniers menés à leur lieu d'exécution juste derrière nous. Et une foule se rassemblait pour assister à cet horrible spectacle. Et tout autour, nous pourrions voir les murs de deux monastères.
Le musée sera fait de deux bâtiments. Le premier dans le marché général qui ouvrira en 2026 et un peu plus tard, le second, il n'y a pas encore de date, dans l'espace qui était réservé aux volailles et qui a été construit dans les années 1960. C'est là que se tiendront les expositions temporaires du musée et la plupart des événements d'un Museum of London qui veut devenir, avec ce déménagement, le musée des Londoniens.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
Vendredi, c'est la musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Estonie aujourd'hui.
Et oui, et si vous vous êtes déjà demandé ce que l'on pouvait faire avec deux voix, une sitar et quatre mains, les Estoniennes de Duo Root ont la réponse. Largement inspirées par les chants folkloriques de leur pays, formées en 2017 par Katarina Kivi et Anne-Lisette Reban, le duo a déjà exploré cette formule minimale sur un premier album, largement salué en Estonie à sa sortie en 2019, en amont d'une série de concerts qu'elles vont donner la semaine prochaine au Festival des Transmusicales à Rennes. Duo Root a publié cet automne un nouveau single, fidèle à leur style, deux voix diaphanes et une sitar estonienne que les deux musiciennes se partagent, corde pincée pour l'une et baguette pour l'autre. Le morceau s'intitule « Lisa Pemes Zule » et c'est une reprise d'une chanson folklorique d'un village estonien sibérien de la région de Kalachinski, à la fois chanson d'amour et référence aux Estoniens bannis du territoire russe au siècle dernier.
Estonienne de Duo Root dans Accent d'Europe. Merci Vincent Teval. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, le podcast est disponible sur rfi.fr ou sur les plateformes d'écoute et vous pouvez bien sûr vous abonner. À bientôt.